Voix au chapitre, avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre, le plaisir d'accueillir Miassa Messaoudi. Bonjour.
Bonjour.
Miassa Messaoudi, alors on va le dire tout de suite aux auditeurs pour qu'ils aient l'éclairage de votre nom et du mien, parce qu'ils connaissent le mien. Il se trouve que nous portons le même nom, mais nous ne nous connaissons pas. Et c'est une première rencontre avec vous ce dimanche, et puis j'en suis ravie.
Moi aussi.
Et vous allez nous présenter le livre qui vient de paraître, votre livre, « C'est mon choix ». Disent les femmes soumises en sous-titre. Ce livre vient de paraître aux éditions Coucou, une maison d'édition algérienne. J'espère qu'on aura le plaisir de retrouver ce livre disponible en France très, très prochainement. C'est mon choix. Vous présentez d'abord Miassa Messaoudi. Vous êtes franco-algérienne, vous êtes originaire de Sidi Bel Abbès et vous êtes traductrice, activiste féministe et déjà auteur de plusieurs articles politiques romancés. Ce livre est un premier roman, et plutôt qu'un roman, on va parler d'un récit, puisqu'il est votre histoire, il est votre témoignage, votre envie d'écrire. Quand je vous présente en disant que vous êtes activiste féministe, c'est dire si dans votre vie, le combat a été dur, on parlera de l'écriture après, mais dans votre vie tout court d'être féministe, quand vous étiez en Algérie?
On n'a pas vraiment conscience des actes féministes qu'on pose dans sa propre vie. Au début, je pense que j'ai toujours été une femme libre et très révoltée contre la société dans laquelle j'ai grandi, parce qu'elle était très codée et codée de manière patriarcale.
Patriarcale, bien sûr.
Et je ne savais pas poser ce mot patriarcal sur ce qui m'arrivait en tant que femme.
Mais vous saviez dire non souvent, peut-être?
Très souvent même, ce qui m'a valu peut-être un peu une enfance assez pas réprimandée, mais peut-être des fois de remise en ligne droite, comme il dit chez nous. Mais voilà, donc oui, je pense l'avoir toujours été par ma propre vie déjà, le choix de partir après mes études universitaires à Oran. Et c'était une forme ou une sorte de prise de conscience de mes limites de femme dans un pays où, à l'issue de votre cursus universitaire, vous avez soit le mariage, soit un petit métier, vous rentrez dans la vie un petit peu, peut-être, de femme algérienne, ordinaire, avec tout le poids social, avec...
Patriarcal encore, évidemment.
Oui, les coutumes, de ce qu'il faut faire. Et puis je pense qu'à un moment donné, ça m'a révoltée, cette hypocrisie, et j'ai plutôt choisi de partir.
Alors, vous êtes partie, et vous nous restituez, vous nous convoquez là dans votre livre. Ah, justement, il y a ce partir qui est évoqué, mais il y a aussi le retour, quand vous allez retourner en Algérie pour diverses raisons, et puis ce qui va vous animer dans votre écriture, à la fois, si on dit romanesque, on pense que c'est dans l'imaginaire, alors que c'est votre vie, je le répète, il me semble, et qu'il y a tout ce que vous venez de dire là, en fait, est restitué dans l'histoire que vous nous racontez. Puisque vous allez retourner à Sidi Bel Abbès, vous allez observer la ville, vous allez observer les gens, vous allez observer ce quotidien. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, vous avez pris la plume ou l'ordinateur, maintenant,
oui,
pour dire les choses, pour dire cette vie-là, quand vous étiez à Sidi Bel Abbès, dans votre enfance, dans votre vie familiale, dans votre cercle, le premier cercle familial, puis ensuite... la société de manière générale.
Ce livre est beaucoup plus un retour qu'un départ.
Oui.
Le départ, il a été fait, donc j'ai côtoyé d'autres sociétés, j'ai vu d'autres femmes vivre ailleurs, pas qu'en France, mais même dans d'autres pays. Et puis, j'ai commencé à amorcer un retour. Peut-être le fait de devenir mère fait qu'on renoue avec aussi la patrie. Et je suis retournée sur les lieux de ma naissance et le lieu où j'ai grandi. Et je voulais dire à ces femmes-là que la liberté était le bien le plus précieux. Donc j'étais ailleurs et je suis revenue. Mais quand je suis revenue après la décennie noire, une trentaine d'années après. Le paysage avait beaucoup changé. Et pas que le paysage urbanistique, pas que l'architecture, mais même l'architecture des mentale des gens aussi, ça a beaucoup évolué. Ça n'était pratiquement plus l'Algérie que moi j'ai connue. L'Algérie.
Vous aviez laissé une Algérie qui était en mouvement à l'époque.
Prometteuse.
Prometteuse, voilà.
Prometteuse. Bon, il y avait les premières amorces de l'islamisme à l'époque. Hein. Mais par exemple, moi, dans ma faculté, j'étais à la faculté d'Essénia, qui était une très grande fac, hein, il n'y avait pas de femmes voilées. On n'avait pas ça, par exemple. Petit à petit, les symboles de l'islam politique ont commencé à s'imposer. Mais moi, j'avais quitté à ce moment-là. Je retournais épisodiquement. Et chaque fois que je retournais, je me souviens, j'arrivais à l'aéroport d'Oran et c'était ma famille qui venait me récupérer d'Oran à Bélabès, il y a 80 kilomètres à peu près. Et ce trajet-là était vraiment tragique parce qu'on pouvait, il y avait les faux barrages, ça tombait pile poil dans la décennie noire et j'entendais plein d'histoires dans celles de femmes que je connaissais personnellement qui ont été soit égorgées, soit kidnappées par les islamistes et qui finissaient dans des camps comme femmes esclaves. Cette violence-là, j'ai l'impression qu'en Algérie, on est passé dessus beaucoup trop vite. On oublie un petit peu toute la violence qu'ont subi les femmes pendant cette période-là. Et je me rappelle, et je le dis un peu dans mon bouquin, c'est un peu un clin d'œil à la réalité, c'était des femmes qui faisaient des grandes études, hein. C'était des femmes qui étaient en faculté de médecine, en chimie, toute la jeunesse prometteuse de l'Algérie, c'était vraiment l'Algérie de demain qui se construisait à cette époque-là et qui a été cassée, brisée, soit chassée par cette période noire, ces années de braise, soit emprisonnée dans des petits camps, dans les montagnes, dans le maquis islamiste, où elles étaient vraiment transformées ou anéanties à la fonction sexuelle et reproductrice. Et voilà, c'était une forme d'esclavagisme qui était pratiquée à l'époque. Et j'ai l'impression que dans l'Algérie actuelle, on n'a pas suffisamment, on n'est pas suffisamment revenu à cette période-là pour dire qu'est-ce qui s'est passé.
Qu'est-ce qui s'était passé à ce moment-là ?
Qu'est-ce qui s'était passé ?
Vous l'évoquez vraiment dans votre livre sur justement qu'est-ce qui fait que les femmes aujourd'hui, les femmes algériennes dans leur quotidien, ce qu'elles subissent aujourd'hui, mais ce qu'elles ont subi dans cette période-là, étaient porteurs de violences, hein, qui ont construit après leur histoire, hein, parce qu'après, quand vous retournez en Algérie à Sidi Belabès, vous retournez pour un enterrement aussi.
Oui.
Il y a un enterrement. Et vous voyez, vous le racontez dans votre livre, vous voyez les cousines, la famille, et puis l'entourage proche et puis un peu plus lointain, voilés, comme vous le dites, puisque les voiles se sont multipliés, mais aussi dans un enfermement. Et là, ça, vous êtes intérieurement révolté de voir que l'avenir a été cet enfermement des femmes.
Bah, déjà, nous, on était une génération... Finalement, on se rend compte rétrospectivement qu'on était une génération plus libre que celle qui est venue après. C'est-à-dire, on a constaté de visu et de vécu ce qui se passait en Algérie comme régression par rapport à la condition des femmes. C'était, et en plus, il y avait aussi, quand je parle de cet enterrement d'une tante que j'adorais et tout ça, et ce que j'y voyais comme nouvelle pratique, comme nouvelle coutume, comme nouvelle façon d'être et en tant que femme, oui, bien sûr, c'était carrément des pratiques nouvelles. Ça venait d'ailleurs, c'était pas dans nos coutumes, c'était pas nous, ça. Et voilà, d'où le fait que Inès, le personnage narrateur du livre, est prise de malaise. Ouais. Parce que là, il y avait aussi... Moi, je suis d'une région où il y avait quand même des femmes enseignantes qui ont été égorgées dans les villages. Il faut rappeler que grâce aux femmes aussi, qui étaient beaucoup dans l'enseignement à l'époque, on finissait pratiquement toutes dans l'enseignement, quand on faisait des études universitaires... elle assurait l'école républicaine dans les petites contrées éloignées des grands centres urbains. Et ça, je pense qu'on ne leur rend pas suffisamment hommage parce qu'elles ont sauvé en quelque sorte l'école algérienne et elles ont contribué peut-être à une victoire, une forme de victoire sur l'islamisme.
Alors c'est intéressant quand vous parlez Miassa Messaoudi, parce que à la fois vous parlez de manière à la fois générale sur la société algérienne et on retrouve dans ce général la singularité de votre histoire, parce que Inès c'est un peu vous quand même.
Oui,
en tout cas elle vous ressemble.
Elle me ressemble, mais je lui fais faire des choses.
Mais voilà, dans cette détermination.
Dans mon histoire.
Oui, j'entends bien, mais après le récit, il est aussi romancé
en
général, voilà. Mm-hmm. Mais ce que je veux dire c'est que elle vous ressemble terriblement, justement, dans cette observation et dans cette dénonciation, quelque part, de ce que vit aujourd'hui l'Algérie.
Totalement, bien sûr, parce que déjà, le, comme c'est un livre qui va au constat, forcément, il pose un regard. Et ce regard, est, oui, bien sûr, il est le mien, il est peut-être aussi le vôtre et de beaucoup d'autres Algériens qui ont quitté l'Algérie il y a quelques années et qui reviennent un peu peut-être déçus, parce qu'on a envie de faire des choses, on a envie d'aider ce pays, on a envie d'améliorer les choses, mais on se rend compte que c'est pas si simple que cela, parce qu'il y a quand même d'autres paramètres qui se sont installés dans la société entre-temps. Et voilà, peut-être, je dirais, le Hirak nous ouvre quelques perspectives d'espoir, voilà, et qui font que, voilà, mon côté féministe, vraiment engagé et encadré, est apparu à ce moment-là. Enfin, il a pris son ampleur avec ce qui se passe maintenant dans le pays.
Et vous avez décidé d'écrire « C'est mon choix », le titre de votre livre, « Disent les femmes soumises ». Qui est en sous-titre, c'est important de le souligner aussi parce qu'on parlera de qui sont les femmes soumises aujourd'hui en Algérie. Vous avez décidé de prendre quand ce temps d'écriture pour nous restituer cette histoire.
En fait, le livre, il a été chez l'éditeur depuis déjà un an, donc bien avant le déclenchement du Hirak en Algérie. Mais il est quand même en osmose, il accompagne un petit peu, parce que je parle aussi, il y a des clins d'œil politiques par rapport aux grosses problématiques algériennes, le triptyque que j'appelle, c'est-à-dire la situation de la femme, l'identité du pays, la langue, la place de la religion, toutes ces choses-là, le Hirak les a posées. Et peut-être que moi aussi, je les avais posées un an avant, donc ça aide un petit peu à voir plus clair dans ce qui se passe dans l'Algérie actuelle.
Miassam Essaoudi, c'est notre invitée ce dimanche. Je rappelle qu'elle est l'auteur de « C'est mon choix, disent les femmes soumises ». Ça vient de paraître aux éditions Coucou. On la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Voix au chapitre, je rappelle que je reçois ce dimanche Miassam Essaoudi. Miassam Essaoudi est l'auteur d'un livre, « C'est mon choix, disent les femmes soumises », qui vient de paraître aux éditions Coucou. Dans une première partie, nous évoquions justement ce travail d'écriture, ce regard qui est posé dans son livre. L'héroïne s'appelle Inès. Je vous demandais si elle vous ressemblait terriblement, il me semble, à vous entendre, puisqu'elle est déterminée, féministe, et puis elle s'est opposée à ce patriarcat qu'elle aurait subi. Bon, après, s'y opposer, c'était aussi partir, comme vous. Mais tout au long du livre, quand même, il y a ce regard qui est posé dans la société algérienne qui est intéressant, puisqu'il est à la fois vivant en même temps, puisqu'il y a des personnages qui sont quand même des personnages attachants. Il y a d'abord... qui n'est plus, mais votre père, votre oncle, qui vous ont ouvert les portes de la liberté, enfin, le père et l'oncle d'Inès, oui, en tout cas. Mm-hmm. Je crois que c'est aussi important, des personnages aussi qui vous ont ouvert les portes de cette liberté. Et puis ces femmes aussi, qui sont soumises. Donc voilà, vous avez vécu à Sidi Bel Abbès entre cette à la fois opportunité de partir... Et puis voilà, autour de vous, des femmes. Vous auriez eu envie de leur parler à ces femmes ? Vous avez eu envie de leur parler à ce moment-là ?
Oui, parce que je pense que prendre sa liberté n'est pas si tragique que ça. Il faut l'oser. Peut-être que je suis une femme que des hommes ont aidé à échapper à la condition tragique des femmes soumises, entre parenthèses. Je pense que c'est vers ça que je voulais aller. Et il y a beaucoup de métaphores aussi quand je parle de l'oncle de sa finesse d'esprit et sa connaissance et la pratique qu'il avait en même temps de la tyrannie. À travers une société, peut-être où une permissivité de la société qui faisait qu'elle lui donnait tellement de droits sur les femmes qu'il en abusait, même s'il avait les moyens intellectuels de s'y opposer. Mais il était quand même tyran. Tyran oui. Parce que l'environnement
l'aidait, favorisait.
Évidemment, je parle de la polygamie dans son état cru, hein, parce que peut-être maintenant, de nos jours, et pas ceux de mon oncle, par exemple, ou l'oncle d'Inès dans le livre, c'était des femmes qui vivaient sous le même toit. Et vous pouvez poser la question à tous ceux qui ont vécu la polygamie, qui sont des adultes peut-être maintenant, c'est tragique. C'est la mise à compétition, c'est la violence domestique, c'est beaucoup de choses très désagréables à vivre et puis qui peuvent heurter à vie le futur adulte. Donc maintenant, peut-être, il y a d'autres aménagements. Les gens ont des femmes, mais des femmes qui vivent dans d'autres lieux, pas forcément sous le même toit, mais c'est toujours la même chape de plomb, la même menace, la même violence, quelque part, envers les femmes. Donc voilà, je parle surtout de ça et puis surtout peut-être des antagonismes après, parce que les femmes ne sont pas conscientes, elles ont parfois tellement intériorisé cette aliénation qu'elles ne disent rien.
Parce qu'elles pensent que c'est normal de vivre
elles
ce qu'elles
que
vivent
c'est
là.
Voilà, exactement. Pourquoi j'ai ouvert le livre vers l'intérieur ? C'est peut-être une invitation aussi à nous, Algériens, tous comme on est, de s'ouvrir sur nous-mêmes. C'est un retour vers soi. Voilà ce qu'on vit.
De se dégager de cet enfermement dont on nous...
Et de ce positionnement permanent envers l'étranger. C'est ça, il faut le franchir, enfin, de mon point de vue. C'est aller au-delà de ces clichés qui reviennent, de ce mode de réflexion toujours par rapport à l'autre, ou par rapport, comme on peut le retrouver par exemple, par rapport à la colonisation, par rapport au Moyen-Orient, par rapport à toutes les choses qui arrivent autour. Nous sommes d'abord, nous avons besoin en tant qu'Algériens, et je peut-être j'ouvre la voie avec ma propre histoire en disant, je reviens sur moi-même. Qu'est-ce que j'ai vu de la condition des femmes ? Soyons honnêtes. C'est vers ça que je veux aller, c'est dire, voilà ce qu'est le patriarcat, voilà ce qu'est notre soumission. Au quotidien, tranquillement, dans les maisons, derrière les murs, loin des caméras, loin de l'autre et du regard de l'autre.
Inès, l'héroïne, en tout cas la narratrice plutôt que l'héroïne, enfin elle est un peu héroïne d'ailleurs, disons-le, elle a fait des envieuses, à votre avis, dans son entourage, quand elle retourne à Sidi Bel Abbès, les personnages qu'elle va voir, qui sont sa famille ou de manière plus lointaine, les voisines, etc. Vous pensez qu'elle
Je ne sais pas si elle a fait des envieuses, mais je me souviens, là, il n'y a pas longtemps, quand j'étais retournée au pays et quand j'ai vu le déluge de la condition des femmes, j'ai assisté à un mariage. Et j'étais épatée de voir d'autres femmes venir vers moi, parce que je suis celle qui transgresse. Clairement, j'ai toujours été vraiment très positionnée, peut-être pas publiquement, mais par rapport à ma propre vie. Parce que je pense que pour être libre et parler de liberté, il faut l'être d'abord soi-même. Une fois on a détaché ou cassé ses propres chaînes, on peut avoir, savoir dire la liberté, savoir la raconter, savoir... porter louange à la liberté, parce qu'elle est formidable. C'est vraiment le bien le plus précieux. Et peut-être qu'avant, ou tout au début, la transgression gênait, choquait même. Il y avait des gens qui étaient très choqués. Mais le temps passant, je trouve qu'il la trouve séduisante, cette transgression. Finalement, oui, pourquoi pas vivre libre. Et ça, je l'ai touché un peu dans l'Algérie du Hirak, qu'on ne suspectait absolument pas. Personne ne suspectait que le peuple va être dans la rue et qu'il va poser autant de problématiques fondatrices dans l'Algérie actuelle. Quand on parle de la condition de l'égalité femmes-hommes, c'est fonder la démocratie, la vraie.
Bien sûr.
Personne ne saurait parler de démocratie en maintenant un état d'apartheid quelque part ou de sous-colonisation par rapport aux autres.
Et de ce code de la famille dont les femmes se sont opposées longtemps.
Le code de la famille est une aberration à abroger et à jeter aux orties, parce que franchement, c'est diminuant même pour l'homme algérien. Franchement, c'est une insulte pour nous tous en tant qu'Algériens,
bien sûr,
pas que les femmes.
Et justement, cette femme, Inès, cette femme, Miassam El Saoudi, dont vous parlez, comme vous parlez à la fois avec détermination de ce combat, de liberté, d'égalité aussi, vous venez de le souligner. Quand je dis qu'elles sont envieuses des femmes qui sont dans cet élan de liberté, qui sont féministes comme vous pouvez l'être, ça veut dire aussi qu'elles ont su, elles, se détacher des chaînes dont vous avez parlé, mais que c'est pas facile de le faire. Et ça, c'est un vrai combat, le combat des féministes. Dans l'universalité du féminisme, c'est pas facile. On le voit bien dans les sociétés occidentales. Les féministes, elles ont encore du boulot. On sait bien ici, en France, en Europe, en Occident, que le féminisme existe toujours. Ça veut dire que les femmes sans cesse doivent se battre contre des inégalités entre les hommes et les femmes, mais c'est aussi dans le corps des femmes aussi que c'est important. Je voudrais qu'on s'arrête justement sur ce que vous dites dans cette liberté que nous devons avoir, les femmes, et les femmes algériennes en particulier, puisque c'est de ça qu'il est question dans votre livre, sur la sexualité, sur laisser libre cours à son corps dans sa visibilité, s'habiller, transgresser sans doute, mais être dans une liberté du corps.
Bah, pour revenir au féminisme, non seulement il est encore d'actualité et partout dans le monde, ce qu'il risque aussi de régresser.
Bien sûr.
D'où la vigilance et le fait qu'il faut être
sans
totalement
cesse,
présent. On a vu très bien ça dans l'histoire du féminisme algérien, parce que la femme algérienne qui aurait pu douter que c'est qu'une femme qui est sortie, qui a combattu, qui a vraiment été avec les hommes, soit renvoyée aux cuisines un jour et qu'on lui ponde le code de la famille
en 84, bien sûr.
En 84, avec les conservateurs, parce qu'on ne peut même pas le mettre sur le dos des islamistes, il n'existait pas encore politiquement à l'époque, et l'État avait le droit de faire passer une progression l'égalité femmes-hommes. Donc bien sûr, il y a... nous sommes d'ailleurs maintenant notre responsabilité même, en tant que femmes et féministes en même temps, c'est de ne pas reproduire cette même erreur. Le Hirak, il est là, et nous essayons par tous les moyens de fonder cet État démocratique et surtout égalitaire, bien sûr ouvert sur le monde. Alors, et puis, pour revenir à la question de la liberté du corps ou de se réapproprier le corps, je raconte des petites choses un peu dans mon livre autour de la dépossession du corps. Il y a un épisode sur des espèces d'inspection de la virginité qui se passe dans certains lieux, dans les bourgades et tout cela, mais ça se passe, c'est des choses qui sont réelles. Ça rend un droit de regard dans votre intimité. Comment vous pouvez développer votre attachement au corps après ces intrusions violentes dans votre intimité? Il y a un gros problème avec ça, c'est-à-dire...
Parce que c'est un retour, ça. On pensait que ça avait disparu. Mais après, il y a une liberté de choix de l'époux pour... en Algérie, il y a
ça. Ça
avait évolué, mais maintenant, on revient en arrière à nouveau.
On revient en arrière parce qu'on a aussi des ambitions politiques basées sur la confession et qui, elles, utilisent la charia, disons-le clairement, que pour replonger les femmes dans un état de soumission et de non-revendication de leurs droits. Cette histoire de dépossession des corps, elle est importante, parce que quand on va en Algérie, c'est plus les femmes qui voilées, contrairement peut-être, je sais pas comment ça se passe des fois ici en France, c'est aussi une autre situation, un autre contexte, mais c'est en Algérie, c'est plutôt les femmes qui sont pas voilées, qui sont persécutées, qui sont harcelées dans la rue. Ça, c'est le contraire qui se passe maintenant. Donc peut-être que avec le Hirak, ça a mis un frein pour dire. Nous existons, nous sommes là et nous refusons qu'on décide par rapport à nos corps s'il faut le cacher ou pas le cacher. Donc nous sommes dans une perspective d'évolution, mais ce n'est pas encore gagné. La bataille des mentalités est quelque chose de très dur, parce qu'il faut sortir aussi de l'Algérois ou d'Alger.
Oui, des grandes villes, aller dans la ruralité, c'est violent. Oui.
C'est très violent et la plupart des Algériens, la majorité des Algériens sont quand même dans cette ruralité-là. Qui n'est pas prise en charge même par les militants. Je trouve qu'on n'a pas assez de personnes qui vont sur place et qui se déplacent pour expliquer la femme, pour expliquer ce que c'est, que ce n'est pas en contradiction avec la morale ou quoi que ce soit. Hein. C'est s'approprier son corps, c'est déjà la première des libertés, c'est un droit complet. Voilà. Donc...
Mais pourtant, dans l'Algérie aujourd'hui, et on l'a vu dans le Hirak, parce que moi j'ai assisté à des manifestations des vendredis là, au cours de cette année, quand j'allais en Algérie, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes quand même. Hein. Il y avait plus d'hommes quand on voyait des images dans les médias français, mais sur le terrain, quand moi j'ai fait les manifs à Alger, là, aux alentours de la Grande Poste et puis de Place Audin, quand on fait des allers-retours pour voir défiler ce mouvement populaire, ce mouvement citoyen, bah, il y avait non seulement des femmes, mais il y avait des générations de femmes. Il y avait des jeunes filles, il y avait des jeunes femmes, il y avait des femmes, il y avait des moudjahidates, enfin, il y avait des anciennes, comme on dit. Et c'était très intéressant de voir ces générations de femmes.
Totalement, parce que moi, j'étais aussi à Alger au 1er novembre et j'ai rejoint le carré féministe et j'ai rencontré ces femmes et c'est extraordinaire. Ouais. Parce qu'il y a un historique aussi qui accompagne le Hirak, c'est que ces femmes, ce n'était pas gagné. Ouais. Les premiers temps, quand elles se sont engagées dans le Hirak, on les a peut-être accusées de beaucoup de choses, notamment de diviser le Hirak ou de créer diversion avec leurs demandes, qui étaient complètement légitimes et c'était le moment, justement. On disait que c'était pas le moment, mais c'est le moment.
On l'avait dit en 62 aussi que c'était pas le moment.
Tout à fait. Et c'est là où on rencontre, il y a peut-être une jonction entre les générations de féministes, donc, qui ont repris le flambeau au Mujahideen directement. Donc, on est toujours dans la lutte pour notre liberté. Il y a eu la liberté des territoires. Mais il n'y a pas eu la liberté des individus. Et les femmes participent très très fort. Et franchement, c'est peut-être la plus belle surprise de ce Hirak, c'est l'émergence du mouvement féministe. Pas l'émergence simplement, mais sa continuité à travers les générations qui viennent. D'où le fait que vous avez peut-être remarqué que vous aussi, qu'il y avait plusieurs générations de femmes qui défilaient ce jour-là jusqu'aux petites filles, quoi.
Miassa Messaoudi, c'est mon choix, disent les femmes soumises. C'est le titre de son ouvrage, il vient de paraître aux éditions Coucou. Je la retrouve dans un instant.
Voix au chapitre sur Beurre FM. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Miassa Messaoudi est l'auteur de « C'est mon choix », disent les femmes soumises. Ce livre vient de paraître aux éditions Coucou. C'est un livre qui raconte le portrait, la vie d'une femme. Elle s'appelle Inès. Elle se confond avec Miassa Messaoudi, je le répète, il me semble, dans cette détermination que vous avez à parler de liberté, des femmes, de vous. Et vous nous racontez tout au long de ce livre votre retour en Algérie, puisque vous y êtes né, vous y avez fait vos études, vous y avez grandi, fait vos études, et vous êtes venu plus tard en France. Vous vivez aujourd'hui en France, je le rappelle, vous êtes originaire de Sidi Bel Abbès, vous êtes féministe, on l'a entendu, et ce livre est le premier roman, récit de votre histoire, qui est... portée par une narratrice qui s'appelle Inès dans ce livre. Et Inès nous renvoie bien à cette liberté dont vous êtes attachée et dont vous parlez. Et pourtant, la liberté, on en manque encore en Algérie. Vous croyez
alors,
pas ? Quand je dis « on », c'est les femmes,
oui,
bien sûr.
Tout à fait. C'est pour ça, là, on revient au titre. Quand on dit « c'est mon choix », disent les femmes soumises, parce que souvent ce mot revient, il est quand même assez récurrent. « c'est mon choix », mais quel choix vous avez quand déjà, juridiquement, vous n'êtes personne ? Vous êtes diminué.
Vous êtes une moitié en tout cas.
Vous êtes une moitié en tout. Vous n'héritez pas de la même façon, vous perdez la garde de vos enfants si vous avez, si en cas de divorce et si vous avez la mauvaise idée de refaire votre vie. Enfin, il y a plein de petites anecdotes liées au statut des femmes, même par rapport aux violences qu'elles peuvent subir. Et voilà, donc il n'y a pas de choix déjà quand il n'y a pas d'égalité devant la loi. Ça, c'est la première des vérités qu'il faut savoir aussi admettre, parce qu'on est quand même constamment dans le déni de beaucoup de choses. Et là, je reviens à l'essentiel, c'est-à-dire au combat des femmes. Il faut absolument se mobiliser pour faire sauter le code de la famille et être légale devant la loi avec les hommes. Si cette lutte-là est perdue, vous ne pouvez, mesdames, plus jamais parler de choix. C'est une fantaisie que vous ne pouvez pas vous permettre, que nous ne pouvons pas nous permettre, nous, les femmes. Voilà, donc ça, c'est la première lutte à poser par rapport à la situation de la femme. Maintenant, il faut aussi que cesse la récupération d'un certain islam politique qui veut se faire aussi sur le dos des femmes. Nous ne sommes pas non plus un programme politique. Il faut creuser la tête et trouver des idées ou au moins éloigner le spectre religieux de la vie politique, parce que là, on se sert encore une fois des femmes
Tant qu'il y aura ce spectre politique religieux qui se développera, parce que c'est ce qu'on voit dans la société algérienne, il faudrait qu'il y ait une résistance des femmes pour qu'une société égalitaire soit présente. Vous pensez qu'aujourd'hui, Inès, par exemple, dans votre livre, la narratrice peut avoir un rôle comme ça de sensibiliser les femmes quand elles, re, quand elle retourne en Algérie, dans son entourage, elle répète, comme tout à l'heure, dire aux femmes, mais comme vous le dites là, mais vous dites c'est mon choix, mais c'est pas mon choix.
Bien sûr que les femmes, elles ont leur mot à dire. Il faut que seulement que nous, les militants, entre parenthèses, ceux qui participent à la vie intellectuelle d'une manière ou d'une autre, se mouillent davantage la chemise. On doit le dire parce que pendant un très long moment, moi je pense qu'on a déserté un petit peu le terrain militant. On a laissé aussi avancer l'islamisme, par exemple. On n'a pas fait le nécessaire, on n'a pas été suffisamment en face. Bon, peut-être qu'on était en Algérie, pour parler de l'Algérie, cassée un peu par les années de braise qui étaient catastrophiques. Puis on a eu un Bouteflika aussi qui a sorti cette loi de la concorde civile, cette loi qui a pardonné. Sans jugement, sans rien. C'est-à-dire qu'on n'avait plus aucun regard rétrospectif ni derrière de ce qui s'était passé. On a un peu été dans le déni total, mais c'est un déni meurtrier pour les femmes. Donc oui, parce qu'ils ont mis une espèce de voile sur ce qui s'était passé et on continue comme si de rien n'était. Or, il s'est passé quelque chose à ce moment-là et on a donné un second souffle quelque part à l'islamisme de gagner les mentalités, de gagner les mœurs et de gagner du terrain simplement, pour le dire, de visibilité. Nous, nous étions de moins en moins visibles dans la société algérienne. Donc maintenant, peut-être il faut revenir. Il faut revenir très fort pour dire nous existons, nous sommes là aussi et voilà, et nous lutterons.
Vous, Miyassa Messaoudi, vous vivez aujourd'hui en France, toujours féministe, et quel regard vous portez quand vous allez en Algérie, vous, en tant qu'auteur, citoyenne, féministe, plus en tant que narratrice du livre, quand vous allez en Algérie, qu'est-ce qui vous désole, qu'est-ce qui vous espère vraiment pour que ça change pour les femmes?
L'Algérie, j'y étais il y a 2-3 mois à l'occasion du Salon international du livre Alger et c'était la première fois où j'allais à Alger. Moi qui a fait un peu beaucoup de capitales dans le monde, c'était la première fois que je visitais la capitale de mon pays. Ce qui se passe en ce moment, c'est une ouverture sur nous-mêmes. Peut-être ce livre est une ouverture sur nous, d'une manière intime, mais là, c'est vers l'autre carrément. J'adore cette façon que le Hirak pose la question identitaire. Je trouve c'est très, très important de savoir qui nous sommes. De couper un petit peu avec les fantasmes colonialistes qu'il y a eu et qu'on prend pour de la réalité parfois. J'ai beaucoup écrit d'articles là-dessus sur la question de qui nous sommes. Et je pense que le Hirak a ouvert un petit peu, on prend plus conscience que la question identitaire n'est pas simplement kabyle, elle est nationale, elle s'ouvre sur tout. Et puis les gens se sont ouverts sur aussi la Kabylie, parce que je parle de ça entre parenthèses, je ne suis pas kabyle, moi je suis de l'ouest du pays, je suis de ce qu'on appelle les arabophones. Et il y a beaucoup de choses que j'ai apprises dans ce Hirak, notamment parce qu'il y a eu quand même un effort de stigmatisation constant de ce coin cher de l'Algérie. Et j'y reviens en disant, mais c'est extraordinaire, je veux savoir plus, je veux y aller, je veux rencontrer, parce que j'ai compris ce qui s'était passé. Beaucoup d'Algériens ne comprennent pas exactement ce qui se passe en Kabylie. Ils pensent que c'est un combat régional. Or, la Kabylie aussi, quand elle se mouille la chemise, c'est pour un combat national.
Bien sûr.
Par rapport
les revendications sont sociales, elles sont identitaires, certes, mais elles ont été sociales. La Kabylie s'est révoltée contre le code de la famille, donc c'est tout à fait le combat national, vous avez raison.
Et puis, même dans le mouvement féministe, moi, j'ai rencontré aussi beaucoup de femmes de cette région-là, de Béjaïa, d'Alger et tout ça, et je suis complètement... je suis dans l'ouverture. Contrairement peut-être au fait que quand j'ai écrit mon livre, et je le finis sur une note assez peut-être positive, c'est renouer avec mon coin, renouer avec l'Algérie. Je suis dans l'espoir total. J'ai beaucoup d'espoir pour l'Algérie.
Vous allez acheter un appartement là-bas?
C'est fait. C'est fait.
Voilà. Mais je trouvais que j'ai beaucoup apprécié votre livre parce qu'il est effectivement à la fois dans une narration d'un personnage et puis dans une histoire vraie, donc ça me semble important on n'est pas dans une biographie, on est dans une histoire à la fois singulière d'une femme et puis cette observation de la société est tout à fait intéressant, donc je trouve que c'est tout à fait un témoignage, on peut le dire comme ça, d'une certaine manière, un récit, un témoignage?
Alors, il n'est pas un témoignage parce que les personnages qui sont dans ce livre sont des personnages que j'ai volés par-ci, par-là, dans les vies d'autres personnes. Mmh. Ce n'est pas forcément ce qui est arrivé dans la vie
oui,
d'Inès.
Oui, bien sûr. Donc, on est dans vraiment, un romanesque. Mais
C'est très romancé et c'est pour donner un échantillon assez complet aux Algériens, aux miens, de comment on vit. Parce que aussi, il faut signaler que moi, j'ai grandi dans une Algérie où il y avait un conservatoire, il y avait la musique, il y avait le théâtre, il y avait le sport. Et ces choses-là se sont étiolées. Elles existent encore, mais elles sont abandonnées. On a moins de salles de cinéma, moins de théâtre, moins de beaucoup de choses. Les femmes qui participaient, moi, j'étais dans une ville où on faisait tous les sports. Et beaucoup de choses étaient permises. Et donc l'espoir aussi était permis à l'époque. Notre rapport à ou relation à la religion, elle était spirituelle aussi. Il n'y avait pas cette récupération politique forte qui est venue habiter l'esprit de beaucoup de gens, je pense des deux rives même.
Et aujourd'hui, en France, comment vous sentez-vous dans un combat féministe ici en France ou au regard des sociétés méditerranéennes ou arabo-musulmanes ou...
Enfin, moi, je cultive un féminisme universaliste. Hein. Tout ce qui se passe concernant la femme, que ce soit
ici
dans mon propre
ailleurs,
pays,
oui.
Dans mes deux pays, parce que je suis quand même des deux nationalités franco-algériennes, ce qui se passe en France m'interpelle énormément. Surtout qu'on est aussi dans un très grand débat autour du féminisme en France. Hein. Il y a l'intersectionnel, il y a l'universalisme, et qui se heurte... Très souvent. Il y a aussi ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe en Iran, ce qui se passe au Liban, ce qui se passe... D'ailleurs, mon prochain roman, j'irai au Liban pour voir aussi les conditions des femmes un peu dans tous ces pays-là. Non, je suis vraiment complètement dans un combat ouvert et solidaire de toutes les femmes du monde.
Et ben voilà, on va se terminer, on va se quitter sur ces jolis mots puisque c'est un grand combat. Plus que des jolis mots d'ailleurs, c'est plutôt un grand combat et j'invite vraiment les auditeurs, les auditrices à lire votre livre « C'est mon choix », disent les femmes soumises. Miassa Messaoudi, l'auteur, ce livre vient de paraître aux éditions Coucou, merci infiniment de cette rencontre ce dimanche.
Merci à vous, merci pour l'invitation.
Au revoir à tous, au revoir à toutes, on se retrouve la semaine pour un autre rendez-vous de Voix au chapitre. D'ici là, passez une bonne semaine.
Voix au chapitre sur Beurre FM.